VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Villon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Au moins 4 personnes sont mortes et 3 sont portées disparues au large de Dakar au Sénégal après le naufrage d'une pirogue qui emmenait lundi soir des dizaines de visiteurs sur des îles touristiques. L'embarcation transportait plus d'une trentaine de passagers, en majorité des Sénégalais, mais aussi des Français et des Européens, quand elle a chaviré sous l'effet de violentes pluies tropicales et de la houle, alors qu'elle voguait vers les îles de la Madeleine. Les recherches poursuivaient aujourd'hui pour retrouver les disparus. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a fait appel hier contre l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et l'un de ses proches, Charles Blé Goudé. La nouvelle a suscité de vives réactions à Abidjan. Irémé Herman Umbo.
Pascal Affine-Gesson, président d'une tendance du Front populaire ivoirien, a dénoncé la décision de Madame Bensouda. C'est du dilatoire juridique et de l'acharnement politique pour maintenir le plus longtemps possible, loin de leur pays, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et les empêcher de prendre part à la vie politique de la Côte d'Ivoire, a déclaré M. Nguesson. Georges Armand Ouénien, président d'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, une coalition pro-Gbagbo qui regroupe des partis politiques d'opposition et des associations de la société civile, a lui aussi fait part de sa déception. Je suis profondément déçu, mais je garde espoir, a-t-il lancé, indiquant avoir confiance en la justice, même s'il flaire un acharnement judiciaire. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont innocents, c'est important qu'ils reviennent en Côte d'Ivoire pour la réconciliation nationale, a-t-il martelé. L'appel introduit par Fatou Bensouda va démontrer, selon elle, que la chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de procédure qui ont abouti à l'acquittement de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé.
Première réunion à Kigali, au Rwanda, de la commission ad hoc sur la mise en œuvre du mémorandum d'entente entre le Rwanda et l'Ouganda. Selon la diplomatie rwandaise, les discussions se sont déroulées dans un climat de franchise et de bonne entente. Venuste Nshimiyimana, correspondant du service Afrique centrale de la VOA à Londres, a joint Olivier Oudoundjigire, le ministre rwandais en charge de la communauté est-africaine.
C'est une réunion importante puisqu'elle était destinée à discuter d'une manière franche des problèmes qui existent entre nos deux pays. Et donc cette réunion a eu lieu d'une façon franche, dans une atmosphère cordiale. Nous avons discuté de tous les problèmes et nous avons abouti à quelques décisions et recommandations, y compris sur le sort des Rwandais qui ont été arrêtés de manière illégale et soumis à la torture en Ouganda. Nous sommes convenus que la République d'Ouganda va revoir ses dossiers et libérer ceux contre lesquels il n'y aura pas d'évidence solide ou une procédure judiciaire n'aura pas été entreprise.
Et ces Rwandais qui sont détenus dans des prisons ougandaises, quand seront-ils libérés?
Justement, c'est l'un des points du communiqué d'aujourd'hui, puisque nous, ce qui est important, ce qui est primordial, est que nos concitoyens rwandais soient libérés au plus vite. Nous nous sommes convenus qu'il y aura une deuxième réunion de cette commission ad hoc qui aura lieu à Kampala dans un mois, et on espère que dans un mois, tous les Rwandais seront libérés, puisque c'est un engagement de la République de l'Ouganda et de toutes les parties qui étaient en présence aujourd'hui.
Vous vous êtes donc parlé franchement. Avez-vous évoqué la question de la réouverture de la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda?
Cette question a été évoquée, mais il faut comprendre que la question primordiale était relative à la persécution des Rwandais donc, qui traversent la frontière, puisque lorsqu'on parle de libre circulation de marchandises, de biens et de services, lorsqu'on parle de commerce transfrontalier, cela ne se fait pas tout seul, cela se fait par des personnes. Donc, si on discute et qu'on trouve une solution à la question de la libre circulation de personnes sans risque d'être persécutées, là, on va résoudre dans le même temps la question des frontières et la question de la libre circulation des marchandises.
On sait que depuis un certain temps, le Rwanda et l'Ouganda se livrent une sorte de guerre sans merci sur les réseaux sociaux. Et cette question a-t-elle été évoquée aussi?
La question a été évoquée puisqu'on a bien sûr le problème des médias, surtout des médias ougandais qui, ces derniers mois, donnaient la parole aux membres du groupe terroriste RNC. Il y en a plusieurs qui ont parlé dans les médias officiels ougandais. Et donc cette question a été évoquée et d'ailleurs une décision a été prise et les deux parties se sont engagées à mettre fin à toute propagande hostile, que ce soit dans les médias classiques, que ce soit sur les réseaux sociaux.
Olivier Ndouhongiré, le ministre rwandais en charge de la communauté est-africaine. L'Afrique du Sud tente de rassurer les pays africains après les récentes violences xénophobes. Un émissaire de Pretoria en visite hier à Abuja a présenté, je cite, ses plus sincères excuses au Nigeria dans le cadre d'une tournée africaine. Abdourahman Dia.
L'ancien ministre Jeff Radebe, envoyé par le président Cyril Ramaphosa, a rencontré le chef de l'État nigérian Muhammadu Buhari. Ces événements ne représentent pas les valeurs que nous défendons, a rappelé M. Radebe. Le président Buhari a assuré à l'envoyé sud-africain que les relations entre les deux pays seraient consolidées. Après le Nigeria, la mission doit faire étape au Niger, au Ghana, au Sénégal, en Tanzanie, en République démocratique du Congo et en Zambie. L'Afrique du Sud a été touchée par une vague de violences xénophobes qui ont fait une douzaine de morts dans les townships et le centre-ville de Johannesburg. De nombreux pays africains ont vivement réagi à ces attaques. Le chef de l'État sud-africain avait été hué par la foule samedi au Zimbabwe lors des obsèques de Robert Mugabe et avait affirmé se tenir ici comme un frère africain et présenter ses excuses et exprimer son regret. Monsieur Buhari et Ramaphosa doivent se rencontrer lors d'une visite d'État en Afrique du Sud le mois prochain.
En Tunisie, un constitutionnaliste austère contre un homme d'affaires en prison, tel devrait être le duel du deuxième tour de la présidentielle, selon des résultats toujours partiels. Eki Abadou.
Kais Saied, un universitaire de 61 ans, sans parti politique, recueille 18,9% des voix, d'après l'instance électorale portant sur 2/3 des suffrages. Il devance l'homme d'affaires emprisonné Nabil Karoui, qui recueille 15,5% des suffrages devant le candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Abdel Fattah Mourou, qui lui obtient 12,9%. C'est assez représentatif du résultat et a priori le classement final ne risque pas de changer, a déclaré Mohamed Lili Mansri, un responsable de l'ICIE. 7 millions d'électeurs étaient appelés dimanche à départager 26 candidats. La participation a été d'environ 45%, très loin des 64% enregistrés lors du premier tour de la présidentielle de 2014. Kais Saied s'est fait connaître comme commentateur politique et cultive une image de monsieur propre, incorruptible et au-dessus de la mêlée. Nabil Karoui, lui, est issu des cercles du pouvoir, mais s'est positionné contre eux et a vu son image d'antisystème renforcée par son incarcération fin août.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
À l'étranger, les Israéliens votent aujourd'hui pour élire les 120 députés de la Knesset, alors que le premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, joue sa survie politique après avoir échoué à former un nouveau cabinet à l'issue du scrutin d'avril. Les sondages placent la coalition centriste bleu et blanc de Benny Gantz au coude à coude avec le Likoud, le parti de droite de Benjamin Netanyahou. Le guide suprême iranien a exclu aujourd'hui toute possibilité de négociation avec les États-Unis, à l'heure où le président américain dit être disposé à rencontrer son homologue iranien tout en menaçant en Téhéran. Les États-Unis ont indiqué préparer une riposte après les attaques contre les installations pétrolières en Arabie saoudite revendiquées par les rebelles yéménites houthis. Que Téhéran dit soutenir politiquement, ces attaques ont réveillé la crainte d'un affrontement militaire avec l'Iran, mis en cause plus ou moins directement par Washington et Riyad. La Cour suprême du Royaume-Uni examine à partir d'aujourd'hui le bien fondé de la suspension controversée du Parlement voulue par le Premier ministre Boris Johnson et vivement critiquée par ses opposants comme une manœuvre visant à imposer un Brexit sans accord. La Cour doit examiner l'affaire durant 3 jours, mais la date du jugement n'est pas connue. Et puis, un attentat suicide à proximité d'un meeting électoral du président Ashraf Ghani en Afghanistan, dans la province de Parwan, a fait au moins 24 morts aujourd'hui, 24 corps et 32 blessés ont été amenés à l'hôpital central de Parwan. Le bilan comprend des femmes et des enfants, a dit à l'AFP son directeur Abdul Qassim Sanguin. Une explosion a par ailleurs retenti dans le centre de Kaboul, la capitale, d'après une source policière. Jean-Roger Villon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri-Francisque pour ce nouveau bulletin. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.